Des sous et des hommes. Une émission de Pascal Fourier. Et notre invité aujourd'hui,
François Soult, auteur de DF, chronique d'un désastre inéluctable chez Calman Levy.
Et haut fonctionnaire qui connaît bien le dossier, si j'ai bien compris aussi. Alors, ce qui m'a inquiété dans la lecture du Monde et qui a fait que je vous ai invité donc pour la deuxième fois, puisqu'on s'était déjà vu il y a 2 ans à peu près ou 1 an et demi, c'est qu'en plein milieu du ventre du journal Le Monde, du 7 septembre, il était marqué « EDF met le cap sur la privatisation ». Alors ça m'a fait un peu drôle parce que jusqu'à présent, à chaque fois qu'on disait « on va privatiser EDF », tout le monde me répondait, enfin tout le monde, les libéraux de préférence m'étaient répondu « ah mais pas du tout, pas du tout, pas du tout, on va libéraliser le secteur de l'électricité, mais ça va rien changer, ça, on veut pas du tout privatiser EDF, alors qu'est-ce qui se passe ?»
En principe, c'est la grande technique qui consiste à dire « bien sûr, on ne privatise pas » ou « bien sûr, on n'ouvre pas la concurrence » et « bien sûr, on ouvre à la concurrence et on privatise ». Il y a une loi qui a été passée l'an dernier qui dit qu'on va ouvrir, on va d'abord changer le statut de l'entreprise, on y reviendra, et une fois qu'on a changé le statut, c'est même pour ça qu'on change le statut, on va ouvrir le capital. Donc après, c'est une question de vocabulaire. Est-ce que ouvrir le capital à des actionnaires privés, c'est privatiser ? Juridiquement parlant, non. Juridiquement parlant, on privatise lorsque l'État devient minoritaire dans une entreprise. Donc lorsqu'il vend plus de 50% des actions de l'entreprise. Là, il ne s'agit pas d'une privatisation juridiquement parlant. Il s'agit néanmoins d'une privatisation en langage courant, puisqu'on va vendre une partie du capital à des actionnaires privés.
On vend une partie du capital, c'est-à-dire qu'on leur vend des actions qui existent déjà. Ça marche comment cette histoire-là ?
Alors, un petit peu d'histoire. EDF, c'est une entreprise nationalisée depuis 1945-1946. Il y avait plein d'entreprises privées qui intervenaient dans le domaine de l'électricité. Ça marchait tellement bien que, au lendemain de la guerre, on a décidé de nationaliser tout ça pour faire un vrai outil industriel au service de la population et de l'intérêt général. Et cet outil industriel, juridiquement parlant, c'était un établissement public. Un établissement public, c'est créé par la loi ou par décret, peu importe. Mais en tout cas, c'est une entité qui appartient à 100% à l'État et qui n'a pas d'action. Il n'y a pas d'actionnaire. C'est un statut qui est prévu donc par des textes de nature législative ou réglementaire. Et pour ouvrir le capital d'une entreprise, encore faut-il qu'il y ait un capital, et donc encore faut-il que cette entreprise soit une société. Et donc la loi qui est récemment intervenue a transformé le statut de l'entreprise d'établissement public sans actionnaire, avec un propriétaire qui était l'État, propriétaire à 100% par définition, en une société en actions. Donc il y a des parts, et une partie de ces parts vont être vendues. Ou en tout cas, c'est le plan qu'a le gouvernement, mais dont Le Monde annonçait début septembre que c'était imminent, et dont Les Échos avant-hier annonçaient que c'était moins imminent que ça. Le 2 octobre, Les Échos, en page 2, de façon un peu subreptice, ont dit « mais finalement tout cela est très compliqué, et peut-être que ça ne va pas intervenir tout de suite ». Donc à suivre.
Mais est-ce que ça veut dire que finalement on vend les bijoux de famille de l'État ? Parce que finalement ça a été acheté à l'époque, enfin toutes les petites sociétés qui avant produisaient de l'électricité ont été achetées avec les sous de l'État français.
Oui, alors si on remonte aux années 40, c'est vrai, mais il faut sans doute pas remonter aussi loin. Ce qui s'est passé, c'est que cette entreprise, elle a fonctionné en étant rémunérée par l'argent que les consommateurs d'électricité, les usagers du service public de l'électricité, payaient, comme vous et moi, en payant leur facture d'électricité. Et cette entreprise s'est capitalisée comme ça, c'est-à-dire elle a eu de plus en plus d'argent qui lui ont permis de faire des investissements. Alors, des investissements parfois discutables, hein, quand on voit le nombre de tranches nucléaires d'EDF, on se demande parfois si cet argent a été parfaitement bien utilisé ou si un mix énergétique différent, c'est-à-dire une répartition plus équilibrée entre les différentes sources de production, aurait pu être faite, mieux faite. Mais effectivement, tout cet argent qui appartient à la collectivité nationale, puisque c'est la propriété de l'État, va être vendu. Alors on peut dire que les citoyens que nous sommes, qui sommes indirectement actionnaires d'EDF par le fait que l'État, qui nous représente, est le propriétaire à 100% de cet établissement public, ben, nous allons être indemnisés par la récupération de l'argent que va réunir la mise sur le marché des actions d'EDF. Donc on va avoir moins de titres EDF en poche et plus de cash en poche. Toute la question, c'est quelle est la valeur de cette entreprise sur le marché? C'est-à-dire combien est valorisé EDF, à combien est valorisé EDF, et est-ce que l'on va recevoir l'argent que l'on devrait recevoir? Ça, c'est le premier temps du raisonnement. Je note que les évaluations d'entreprise sont d'une fiabilité et d'une finesse extrême, puisque c'est, selon les experts, entre 50 milliards et 100 milliards d'euros. Donc une évaluation du simple double, on voit bien la part d'aléa. Et puis le second point, c'est... privatiser ou ouvrir le capital, pourquoi faire? Ce que j'ai essayé de démontrer dans mon bouquin, c'est que c'est fait pour augmenter les tarifs, parce que la concurrence et un actionnaire privé n'est pas capable, pour des raisons techniques et pas idéologiques, hein, pour des raisons purement techniques, du fait que l'électricité ne se stocke pas, du fait que le marché n'est pas capable de gérer correctement le produit électrique, et bien pour toutes ces raisons, on risque d'aboutir à des hausses de tarifs. Le fait aussi qu'un actionnaire privé va devoir obtenir des rémunérations qui soient compatibles avec le risque qu'il prend en investissant dans l'entreprise, alors que l'État, lui, ne se rémunérait pas, selon une logique publique qui est aujourd'hui contestée par la Commission européenne, mais qui consiste à dire tous les consommateurs d'électricité sont également des citoyens, puisque tout le monde consomme de l'électricité, on n'a pas le choix, il n'y a pas de produit de substitution à l'électricité. Et donc, le fait que l'État se rémunère peu en vendant de l'électricité, parce que le fait que EDF ne réalise pas d'énormes profits, c'est pas très grave, c'est une subvention du consommateur au citoyen, et c'est le même, ou du citoyen au consommateur, en l'occurrence, mais c'est la même personne, donc c'est pas très grave. Demain, avec un actionnaire privé, même s'il n'est pas majoritaire, il faut changer de logique. Il faut rémunérer correctement le risque que prend cet actionnaire privé. Or, ce risque est majeur. Donc, il va falloir rémunérer beaucoup. Et alors là, la subvention croisée, elle est claire. C'est entre la poche du consommateur, qui est également un citoyen, vers un actionnaire privé. Et là, ça peut soulever une difficulté. Donc, pour répondre à votre question, est-ce que ça va nous coûter de l'argent? Oui, ça va coûter de l'argent au consommateur, qui est aussi le citoyen, pour alimenter un actionnaire privé dont la valeur ajoutée, parce qu'on pourrait se dire, ça peut être bien, il y a des secteurs où l'actionnaire privé est plus efficace que l'actionnaire public. C'est incontestable. Sauf que dans le domaine de l'électricité, mon analyse, c'est que ce n'est pas le cas. Et l'actionnaire privé ne va rien ajouter, ne va rien apporter. Mais il va falloir mieux le rémunérer que l'État. Et là, alors on pourrait parler de spoliation si on voulait être polémique. En tout cas, on peut parler de manque d'efficience économique si on veut faire dans le technocratique.
Des sous et des hommes, et donc nous sommes toujours en compagnie de François Soult, qui a dit tout à l'heure quelque chose de vraiment qui m'a fait bondir. Vous devez vraiment être un idéologue terrible, hein, puisque vous avez dit cette privatisation, ou du moins cette ouverture de capital, c'est fait pour augmenter les tarifs.
Non, je me suis laissé emporter. En réalité, le constat qu'on peut faire, en dehors de tout parti pris idéologique, et moi, j'ai pas de parti pris là-dedans, hein, je fais un constat technique, bon. C'est que depuis qu'on a ouvert à la concurrence le marché de l'électricité, ça date de février 2000 en France, août 99 et la loi du 10 février 2000 en France, on a constaté, alors que le seul objectif de l'ouverture à la concurrence du marché, c'était de baisser les prix. C'était le seul argument. Les prix ont depuis augmenté de 45%. Alors, pas nos factures à nous, les prix pour les industriels qui peuvent faire jouer la concurrence. Donc, ça a augmenté de 45%. Ce qui fait que l'UNIDEN, qui est l'Union des industriels qui consomment beaucoup d'énergie et qui demandait l'ouverture à la concurrence pour faire baisser les prix, a publié récemment et à plusieurs reprises dans les deux dernières années, des articles dans la presse disant « il faut arrêter immédiatement l'ouverture à la concurrence, ça nous coûte beaucoup trop cher ». Alors, ça c'est le volet « ouverture à la concurrence ». Maintenant, le volet « ouverture du capital d'EDF », qui est complémentaire, qui est distinct, mais qui est complémentaire. Alors, c'est pas fait pour augmenter les tarifs, bien sûr, mais son effet sera indubitablement d'augmenter les tarifs. Pour une raison... qui est en réalité assez simple, même si ça passe par des mécanismes financiers plus compliqués. Mais la raison la plus simple, c'est que l'État, aujourd'hui, en étant propriétaire d'EDF, a un outil industriel. Donc il a des capitaux investis, il y a le pied de bilan d'EDF, hein, le total des capitaux investis dans EDF, en valeur comptable, c'est à peu près 100 milliards d'euros. Donc c'est un paquet d'argent. Bon. Et normalement, ce paquet d'argent, si on le met dans un business, c'est fait pour qu'il rapporte des sous. Bon. Et un business qui est aussi risqué que celui d'opérer des centrales nucléaires, hein, de manager des centrales nucléaires, de vendre de l'électricité, c'est un métier risqué qui doit rapporter, si on suit les règles du marché, sans doute un retour à deux chiffres, 10, 12, 13, 15, 18% de rentabilité. L'État ne tirait pas ça d'EDF. L'État tirait maximum 2, 3% de rentabilité. Un actionnaire privé qui arrive là-dedans, il veut bien mettre des sous, mais il veut que ces sous, ils lui soient remboursés. Et comme c'est risqué, ben, il faut qu'on lui fasse un retour important. Ça, c'est les mécanismes élémentaires de l'économie. Si je prends un risque, il faut me le rémunérer parce que je risque de perdre ma chemise. Et donc, ben, si ça marche, je veux gagner un beau manteau, hein, et pas perdre ma chemise. Et ben là, c'est la même chose. C'est un business risqué. Moi, actionnaire privé, je veux bien mettre des sous, à condition que ça me rapporte. Pour que ça me rapporte, il y a deux manettes à actionner. Il faut diminuer les coûts. Alors, diminuer les coûts, on peut sans doute aujourd'hui licencier plein de gens à EDF en disant il y a trop de gens occupés. Et peut-être que, en toute honnêteté, il y a des marges de manœuvre de productivité, comme on dit là aussi en langage technocratique. Peut-être, peut-être. Encore que ça se discute, parce que derrière, il y a la qualité de service, il y a la sécurité industrielle, il y a des tas d'arguments qui peuvent militer pour que justement on ne touche pas trop à la variable personnelle. Et puis, la seconde manette, c'est le chiffre d'affaires. C'est combien on gagne d'argent. Combien est-ce que EDF a comme... Quel est le chiffre d'affaires d'EDF? Bon, le chiffre d'affaires d'EDF, c'est le tarif. C'est le prix facturé aux clients. En 2007, tous les clients, y compris vous et moi, clients domestiques, seront libres de faire jouer la concurrence. Bon, donc, on devra se fournir sur un marché, à un prix de marché. Et le prix de marché en électricité, il est manipulé par les producteurs parce que l'électricité ne se stocke pas, que c'est un bien non substituable, pour toutes les raisons que je développe dans mon bouquin. Et le prix de marché, il va s'envoler d'autant plus que l'actionnaire privé va vouloir se rémunérer sur le risque. Donc, après ces raisonnements finalement assez simples qui sont contestés, je note, par personne, c'est-à-dire personne n'a contesté ce que j'écrivais dans le bouquin, même les professeurs à l'université, il y en a quelques-uns spécialistes dans l'électricité, ils n'ont jamais dit le contraire. Eh bien, on va constater que, comme pour les consommateurs industriels qui ont vu leur prix augmenter de 45%, les consommateurs individuels vont voir leur prix augmenter par la double raison de l'ouverture au marché et de l'ouverture du capital. L'actionnaire privé sera moins généreux que l'État, forcément, parce que l'État, c'était une vraie politique industrielle qui consistait à avoir des tarifs d'électricité faibles pour favoriser le développement économique du pays.
Mais il y a un truc vraiment là que je comprends pas. Plus vous parlez, plus j'ai les yeux qui s'agrandissent. Mais il me semblait que l'État était là pour préserver l'intérêt des citoyens. Notre intérêt à nous, Français, c'est d'avoir de l'électricité avec de façon sûre, un tarif correct, disons, on pourrait dire. Quel est l'intérêt de vouloir ouvrir le capital? Ça m'échappe totalement. Pourquoi ils ont besoin de sous brutalement?
Alors ça, c'est une très bonne question. Et si j'avais la réponse, je me serais pas investi dans toute cette histoire. Et c'est parce que j'ai pas eu la réponse que j'ai eu besoin d'écrire ça, EDF, chronique d'un désastre inéluctable, parce que la seule réponse que j'ai eue quand je m'occupais du secteur, de la part de tous les interlocuteurs, c'est, évidemment, c'est une connerie, tout ce qu'on fait, mais c'est inéluctable, parce que y a une directive européenne, parce qu'il y a un sens de l'histoire, et le sens de l'histoire, c'est la privatisation, c'est l'ouverture du capital. Alors, bon, l'ouverture à la concurrence, c'est n'importe quoi, ça a été fait, c'est dans le paysage. Je pense qu'il faudrait revenir en arrière. Je pense que si on a voté non, ou beaucoup de gens ont voté non au traité sur l'Union européenne, c'est à cause, non pas de l'électricité, mais à cause de choses comme ça qui se sont accumulées. Et puis, il y a l'ouverture du capital. Alors, l'argument principal consiste à dire, il y a plusieurs arguments qui sont tous de mauvais arguments, hein, et qui sont des arguments de mauvaise foi. Le premier argument, c'est dire, dans un marché ouvert, on peut pas avoir d'acteurs publics, parce que les acteurs publics sont pas dans les mêmes conditions que les acteurs privés. Pour illustrer ce côté horripilant pour certains d'acteurs publics dans une sphère privée, je vous rappelle que la Commission européenne a ouvert une enquête contre EDF. Il y a 2 ans de cela, c'était le commissaire Monti chargé de la concurrence qui avait fait ça. Il avait ouvert une enquête contre EDF en disant « c'est pas normal, il y a une rupture de concurrence ». Un groupe privé, il est obligé de se financer sur les marchés et il se finance à un prix élevé parce qu'il y a un risque. Or, EDF, dans la mesure où c'est un établissement public possédé par l'État, bénéficie de la garantie de l'État. Et donc la garantie de l'État, ça se traduit par des taux d'intérêt moindres. Quand on prête à l'État, on est sûr d'être remboursé un jour. C'est pas demain, ça peut être après-demain. En tout cas, on sera remboursé un jour. Donc on prête moins cher. Et donc Monti avait dit, et la Commission, qui a obtenu gain de cause in fine, ont dit, EDF se finance à un coût moindre, il faut qu'il rembourse. Il faut qu'il rembourse, donc EDF a payé une amende parce qu'elle se finançait moins cher sur les marchés. C'est une raison totalement aberrante, qui est idéologique, de l'idéologie pure, mais on est arrivé à ça. Donc ça, c'est un des arguments. On peut pas avoir un acteur public dans le champ privé. Un autre argument, qui est encore plus de mauvaise foi, consiste à dire EDF a besoin d'argent, ce qui est faux. C'est une contre-vérité. Mais dans l'article du Monde auquel vous faisiez référence, là, du 7 septembre, il était dit EDF a besoin d'argent pour se développer dans les nouveaux métiers ou à l'international. C'est faux. EDF a ce qu'on appelle un cash flow, c'est-à-dire de l'argent dans les poches, à ne pas savoir qu'en faire. Pour des raisons simples, là aussi. C'est que EDF perçoit un tarif qui lui permet de rembourser ses coûts de long terme. Dans les coûts de long terme, il y a le démantèlement des centrales qui interviendra dans 10, 15, 20 ans. Il y a l'amortissement de ces mêmes centrales. Il y a des tas de charges dites calculées, c'est-à-dire tous les ans dans ses comptes EDF dit « je gagne 100 » et puis je constate que dans 20 ans, je devrais dépenser 50. Donc ça, c'est de l'argent qui est une charge, donc ça vient diminuer le résultat d'EDF sur l'année en cause, mais c'est pas une charge qui donne lieu à des sorties d'argent. Et donc EDF perçoit 100, mais ne sort finalement que 50 pour payer ses employés, pour acheter sa matière première. Puis il y a 50 qu'elle garde dans une cagnotte pour les dépenser dans 20 ans. Ça, c'est ce qu'on appelle le cash flow. Hein. C'est ce que Jean-Marie Messier se targuait d'avoir de plus beau au monde. Ben, EDF a, sur la place de Paris, l'un des plus beaux cash flows. Bon. Et donc, ils ont de l'argent à ne pas savoir qu'en faire. Ils avaient tellement d'argent que François Rousseli, le précédent président d'EDF, le claquait sans même raisonner ni calculer, savoir combien ça lui coûtait. Il a acheté l'Argentine à la veille de la dévaluation du peso, il a mis 2 milliards au Brésil, où ça doit être un montant approximatif en euros, hein, alors même que ça ne valait plus rien. Il a acheté London Electricity pour 3 fois le prix. Ils avaient tellement d'argent qu'ils ne savaient pas quoi en faire. Mais aujourd'hui, la problématique est la même. EDF a plein d'argent. Et d'ailleurs, l'ouverture du capital qui se traduira par une augmentation de capital, c'est-à-dire on va proposer aux souscripteurs privés, ou on proposera peut-être le jour où on le fera si ça se fait, moi je mets beaucoup de conditionnels à ça, on va leur proposer d'apporter un peu plus d'argent au capital. Hein. Eh bien, cet argent-là, aujourd'hui, le management d'EDF ne sait pas quoi en faire. Donc, c'est le type même de faux arguments que l'on trouve dans la presse, parce que les journalistes le répètent, mais qui sont des contre-vérités.
Des sous et des hommes, donc, en compagnie toujours de François Soult. Et un petit truc qui m'étonne, c'est que là, jusqu'à présent, visiblement, ils ouvrent le capital à hauteur de 15%. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a une logique sous-jacente qui ferait que c'est 15% maintenant, puis après 20, 30, etc. Et que finalement, effectivement, ça sera une véritable privatisation à terme?
Je ne sais plus qui disait dans l'actuelle majorité, il y a 2 ans, à un marché ouvert partiellement, une ouverture du capital partielle, à un marché ouvert totalement, une ouverture du capital totale. Et donc, comme on va ouvrir le marché totalement en 2007, dans cette logique-là, qui est plus celle officielle du gouvernement, il faudrait ouvrir à 100% le capital d'EDF. Aujourd'hui, ce que dit la loi, c'est que EDF doit rester majoritairement public. Aujourd'hui, ce que disait, ou plutôt hier, ce que disait le gouvernement, c'est « on va ouvrir le capital ». Et l'échéance, c'était le mois d'octobre. Moi, j'étais un peu surpris et un peu triste parce que ça fait 3 ans que je dis on va pas ouvrir le capital, c'est trop compliqué, il y a des obstacles majeurs du nucléaire, de l'assurance du nucléaire, de frontières au sein d'EDF, on sait pas exactement ce dont EDF est propriétaire. Et puis derrière, la hausse des tarifs, c'est-à-dire politiquement, les gouvernements, ils veulent bien passer EDF dans le privé, encore que je suis pas sûr qu'ils seront capables d'aller jusqu'au bout politiquement, mais ils veulent pas augmenter les tarifs. Et y compris les gouvernements de droite n'ont pas augmenté les tarifs de l'électricité comme ils auraient dû le faire pour couvrir les charges d'EDF. Et donc, ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que on est début octobre, l'ouverture du capital n'est pas là, et comme je le mentionnais tout à l'heure, les échos subrepticement annoncent que, oulala, c'est plus compliqué que ça, 2006, sauf qu'en 2006, on se rapproche d'échéances politiques, et je vois mal le gouvernement prendre la responsabilité d'ouvrir le capital à ce moment-là. Donc finalement, l'ouverture du capital va peut-être pas se faire. Mais rien ne s'opposerait à ouvrir de 15 à 45%, et puis à changer la loi pour dire dire, on privatise totalement. Aujourd'hui, en tout cas, le dossier est tellement compliqué parce que la réalité des faits reprend le dessus. Les faits, ils sont têtus. On peut changer les lois tant qu'on veut. On constate ensuite que c'est très compliqué d'ouvrir le capital et de ne pas augmenter les tarifs. Et moi, je suis presque soulagé, en tout cas en tant que citoyen soulagé et en tant qu'analyste un peu rasséréné, de voir que l'ouverture n'est pas pour demain.
Bien, c'était donc des sous et des hommes et on était en compagnie de François Soult. Alors je vous rappelle que en réalité vous pouvez en écouter sur le site de des sous www.dessousetdeshommes.org avec un tiret entre chaque mot. Deux émissions déjà, une qui a été faite en le 9 avril 2002 avec Henri Guénaud qui est un ancien commissaire au plan et de droite, hein, ce qui est quand même assez rare dans mes émissions, j'avoue. Et François Soult donc qui était déjà venu le 12 mars 2004. Je crois quand même qu'il faut rester attentif au dossier même si effectivement peut-être que ça ne se fera pas, mais en tous les cas, s'il n'y a pas de pression du public, ça pourrait bien se faire. Voilà, à la semaine prochaine.